Chapitre 20. Le grand monde. Si le jeune John Chivery eût eu le désir ou le talent d'écrire une satire contre l'orgueil de la naissance, il n'aurait pas eu besoin de chercher des exemples vengeurs ailleurs que dans la famille de sa bien-aimée. Il en aurait trouvé des modèles suffisants dans ce frère chevaleresque et cette sœur dédaigneuse, tous deux habitués à tous les genres de bassesse et pourtant si fiers de leur naissance, si prêts à emprunter, à mendier des plus pauvres gens, à manger le pain de tout le monde, à dépenser l'argent de tout le monde, à boire dans la coupe de tout le monde, quitte à la briser après. Le jeune John aurait pu passer pour un poète satirique du premier ordre s'il avait seulement peint au naturel l'existence sordide de ces personnages qui évoquaient sans cesse le fantôme de leurs prétentions aristocratiques pour jeter de la poudre aux yeux de leurs bienfaiteurs. Tip avait fait un excellent usage de sa liberté en devenant garçon de billard. Il s'était si peu inquiété de savoir à qui il devait d'avoir été relâché que M. Clennam aurait pu se dispenser d'adresser à Pleurniche tant de recommandations pour obtenir sa discrétion. Quel que fût son bienfaiteur, le jeune insolvable avait fort volontiers accepté le bienfait et après avoir chargé Pleurniche de présenter ses compliments au philanthrope inconnu, il n'y avait plus songé. Son écrou ayant été levé à ses faciles conditions, Tip était donc sorti de prison pour devenir garçon de billard. Il se montrait de temps à autre dans la petite cour du jeu de boules, en habit vert à la Newmarket, d'occasion, orné d'un col luisant et de splendides boutons de métal, neufs, et buvait la bière des détenus. Un point solide et fixe dans le caractère de ce gentleman, c'était le respect et l'admiration qu'il avait pour sa sœur Amy. Ce sentiment ne l'avait jamais engagé à épargner à la petite Dorrit un moment d'inquiétude, ni à se gêner ou se priver de quoi que ce soit à cause d'elle. Néanmoins, à travers ce lâche égoïsme, contracté dans le séjour de la prison, il l'aimait. Encore un symptôme de la corruption causée par l'atmosphère de la maréchaussée, c'est que Tip s'apercevait très bien que sa sœur se sacrifiait à son père, mais ne paraissait pas se douter le moins du monde qu'elle eût fait quelque chose pour lui-même. Notre histoire ne saurait fixer avec exactitude l'époque précise où ce jeune homme bien-né et Mademoiselle Fanny commencèrent à évoquer, d'une manière systématique, ce squelette aristocratique de leur noble famille, destiné à faire impression sur le commun des détenus. Ce fut sans doute vers le temps où ils commencèrent à dîner aux dépens de la charité de la communauté. Toujours est-il que plus ils se sentaient pauvres et nécessiteux, plus on était sûr de voir le squelette sortir pompeusement de sa tombe, et que l'un d'eux n'avait pas plutôt commis quelque action plus méprisable que de coutume, que le squelette ne manquait pas de se montrer plus triomphant que jamais. La petite Dorrit ne put sortir de bonne heure le lundi matin, car le doyen se levait tard, et il fallait préparer son déjeuner et ranger dans sa chambre. Elle n'allait pas en journée, et elle était restée jusqu'au moment où, avec l'aide de Maggie, elle avait tout mis en ordre dans l'appartement du doyen et avait vu celui-ci partir pour sa promenade du matin, promenade d'une vingtaine de mètres environ, jusqu'au café où il allait lire le journal. Elle mit alors son chapeau et sortit. Elle aurait désiré être libre beaucoup plus tôt. Quand elle passa dans la loge, la conversation qui s'y tenait s'arrêta tout court, comme d'habitude, et l'attention d'un détenu, qui était arrivé le samedi soir, fut stimulé par un coup de coude que lui donna un détenu plus ancien. « Regardez bien, c'est elle !» Elle voulait voir sa sœur. Mais lorsqu'elle arriva chez M. Cripples, elle apprit que Fanny et son oncle étaient déjà partis. Ayant prévu le cas et décidé d'avance qu'elle chercherait à les rejoindre, la petite Dorrit se remit en route pour le théâtre qui se trouvait de ce côté de la rivière, pas bien loin de là. La petite Dorrit ne connaissait pas plus les dédales d'un théâtre que les galeries souterraines d'une mine d'or, et lorsqu'on lui indiqua une espèce de porte furtive qui avait un air tout débraillé, qui paraissait honteuse d'elle-même et prête à se cacher dans une allée, la jeune fille hésita à s'en approcher, intimidée d'ailleurs par la présence d'une demi-douzaine de gentlemen rasés de près, dont les chapeaux affectaient des poses hasardées et qui flânaient autour de cette porte avec des airs qui lui rappelaient tout à fait les locataires de la maréchaussée. Après réflexion et rassurée par cette ressemblance, elle s'adressa à eux pour savoir où elle trouverait Mademoiselle Dorrit. On s'écarta pour la laisser entrer dans un sombre vestibule, qui avait plutôt l'air d'une grande lanterne sans mèche que d'autre chose, où le bruit d'une musique éloignée et des pas légers de danseurs arrivaient jusqu'à elle. Un homme qui avait tellement besoin de prendre l'air qu'il semblait recouvert d'une couche bleuâtre de moisie, surveillait ce triste salon d'attente du fond d'un trou percé dans quelque coin comme une araignée. Il dit à la petite visiteuse qu'il enverrait un message à Mademoiselle Dorrit par la première dame ou le premier gentleman qui viendrait à passer. La première dame qui vint à passer portait un rouleau de musique dont une moitié se trouvait dans son manchon, l'autre moitié en dehors. Cette dame était tellement chiffonnée des pieds à la tête qu'une personne complaisante n'aurait pu la voir sans éprouver le besoin de mettre un fer au feu pour la repasser. Mais comme c'était une bonne fille, « Venez avec moi, dit-elle. Je vous aurai bientôt trouvé Mademoiselle Dorrit. » Et la sœur de Mademoiselle Dorrit alla avec elle, se rapprochant à chaque pas qu'elle faisait dans l'obscurité de ce bruit de musique et de danse. Enfin, elles arrivèrent au beau milieu d'un nuage de poussière où une quantité de gens se heurtaient sans cesse les uns contre les autres et où il y avait un tel fouillis de poutres aux formes inexplicables, de cloisons de toile, de murs de briques, de cordes et de cylindres, un tel mélange de gaz et de jours naturels que, dans ce chaos, les deux jeunes femmes purent croire qu'elles voyaient un décor de l'univers à l'envers. La petite Dorrit, abandonnée à elle-même et bousculée à chaque instant par quelques passants affairés, commençait à perdre la tête lorsqu'elle entendit la voix de sa sœur. « Ah, mon Dieu, Amy, qu'est-ce qui t'amène ici ? Je voulais te voir, ma chère Fanny, et comme toute ma journée de demain est prise, et que je savais que tu serais occupée ici jusqu'à ce soir, j'ai pensé, la drôle de chose de te voir dans les coulisses. Je ne m'attendais pas à cela, par exemple. » Tout en faisant cette réflexion d'un ton de bienvenue fort peu cordial, Fanny conduisit sa sœur vers un endroit du nuage où la poussière était moins épaisse, où l'on voyait une masse de chaises et de tables dorées entassées les unes sur les autres, et où une foule de jeunes filles assises sur tout ce qui pouvait servir de siège bavardait à qui mieux. Toutes ces demoiselles avaient besoin d'un coup de fer, et rien n'était plus drôle que la mobilité constante de leurs œillades à droite et à gauche en jacassant. Au moment où les deux sœurs arrivaient, un jeune garçon insipide, coiffé d'une casquette écossaise, passa la tête derrière une poutre à gauche en disant « Pas tant de bruit par là, mesdames !» puis disparut. Immédiatement après, un gentleman assez sémillant, doué d'une abondance de longs cheveux noirs, passa la tête derrière une poutre à droite en disant « Pas tant de bruit, mes amours !» et disparut également. « Quelle idée de te voir parmi nous autres artistes, Amy ! Tu es bien la dernière à qui j'eusse pensé, dit la sœur. « Comment as-tu donc fait pour arriver jusqu'ici ?»« Je ne sais pas. La dame qui t'a dit que j'étais ici a été assez bonne pour me servir de guide. » Voilà bien ces petites saintes nitouches qui se faufilent partout. Ce n'est pas moi qui aurais pu jamais y réussir, Amy, et pourtant je connais le monde bien mieux que toi. » C'était l'habitude de la famille de poser en fait irrécusable qu'Amy était un petit être paisible et casanier qui n'avait rien de la grande et sage expérience de ses parents. Cette fiction de la famille Dorrit était une ruse de guerre imaginée par elle pour ne pas se sentir écrasée par les services de la jeune fille, dont on ne voulait pas avoir l'air de faire trop de cas. « Eh bien, et qu'est-ce que tu as qui te tourmente, Amy ? Car il faut qu'il y ait quelque chose qui te tourmente sur mon compte, » demanda Fanny. Elle avait l'air de traiter sa sœur, qui avait 2 ou 3 ans de moins qu'elle, comme une grand-mère acariâtre. « Ce n'est pas grand-chose, mais depuis que tu m'as parlé de la dame qui t'a donné ce bracelet, » le garçon insipide, passant la tête derrière la poutre de gauche, cria « Attention, mesdames !» et disparut. Le gentleman sémillant, à la chevelure noire, passant la tête derrière la poutre de droite, cria « Attention, mes amours !» et disparut de même. Sur ce, toutes les demoiselles se levèrent et commencèrent à secouer le derrière de leur jupe. « Eh bien, Amy, dit Fanny, imitant ses camarades, qu'allais-tu me dire ? Depuis que tu m'as raconté qu'une dame t'avait donné le bracelet que tu m'as montré, Fanny, je suis un peu inquiète. Et je suis très désireuse d'en savoir davantage, si toutefois tu veux bien m'en confier davantage. À vous, mesdames, dit le garçon à la casquette écossaise. À vous, mes amours, dit le gentleman aux cheveux noirs. toutes les demoiselles disparurent en un clin d'œil, et la musique et le bruit des pas dansant se firent entendre de nouveau. La petite Dorit s'assit sur une chaise dorée, l'esprit troublé par ces rapides interruptions. Sa sœur et les autres danseuses restèrent longtemps absentes, et durant leur absence, une voix qui paraissait être celle du gentleman aux cheveux noirs accompagnait la musique avec des « 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez !»« 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez !»« Attention, mes amours !»« 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez !» Enfin, la voix se tut, et toutes les danseuses revinrent, plus ou moins essoufflées, s'enveloppant de leurs châles et se préparant à partir. « Attends un moment, Aimé, laissons-les passer devant nous !» dit Fanny à voix basse. Elles se trouvèrent bientôt seules, et, dans l'intervalle, il n'arriva aucun incident important, si ce n'est que le garçon à la coiffure écossaise passa la tête derrière sa poutre en criant « Tout le monde à 11 heures demain, mesdames !» Et le gentleman aux cheveux noirs passa la sienne derrière sa poutre en disant « Tout le monde demain à 11 heures, mes amours !» chacun de son ton habituel. Lorsqu'elles se trouvèrent seules, on débarrassa le plancher, et elles aperçurent devant elles un grand puits vide dans les profondeurs duquel Fanny plongea les yeux en disant « Allons, mon oncle !» La petite Dorit, à mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, aperçut indistinctement le vieillard assis au fond du puits, tout seul dans un coin, avec son instrument et son étui déchiré sous le bras. À voir le vieillard, on pouvait croire qu'il avait d'abord occupé, dans les jours meilleurs, la galerie du haut, éclairée par des croisées, qui du moins laissait voir un petit échantillon de ciel, mais que petit à petit, poussé par ses revers, il avait dégringolé jusqu'au fond de cette citerne. C'était là la place qu'il occupait 6 fois par semaine, depuis bien des années, ne levant jamais les yeux plus haut que son cahier de musique. Aussi croyait-on généralement qu'il n'avait jamais vu jouer une pièce. Il circulait même des légendes qui pouvaient donner à penser que le vieux musicien ne connaissait pas seulement de vue les héros et les héroïnes populaires de son théâtre. On allait jusqu'à raconter que, pendant 50 représentations, le comique de la troupe avait fait la gageure d'adresser ses grimaces les plus drôlatiques à la clarinette, sans que celui-ci se doutât le moins du monde de cette plaisanterie. Les machinistes prétendaient qu'il était mort sans le savoir, et les habitués du parterre supposaient qu'il passait toute sa vie, les jours et les nuits, y compris le dimanche, dans l'orchestre. On avait fait quelques rares expériences sur sa personne en lui offrant une prise de tabac par-dessus la barrière qui séparait les musiciens du public, et il avait toujours répondu à ses politesses comme un homme qui se réveille, quoique toujours avec une civilité où l'on retrouvait le pâle fantôme des façons d'un ci-devant gentleman. À cela près, il ne jouait jamais dans ce qui se passait autour de lui d'autres rôles que celui qui était écrit sur sa partition. Dans la vie privée, où la clarinette n'avait point de rôle à jouer, le vieux Frédéric ne jouait aucun rôle. Les uns disaient qu'il était pauvre, les autres voyaient en lui un riche avare. À tout cela, il ne répondait rien et continuait de marcher la tête basse, sans jamais changer son allure traînante pour lever de terre son pied sans ressort. Bien qu'il s'attendît depuis quelque temps à être appelé par sa nièce, il ne l'entendit que lorsqu'elle lui eut parlé 3 ou 4 fois. Il ne fut pas non plus surpris de trouver là 2 nièces au lieu d'une. Il répondit d'une voix tremblante « J'y vais, j'y vais !» et se traîna par quelques chemins souterrains qui exhalaient une odeur caverneuse. « Comme ça, Aimé, » dit sa sœur, lorsqu'ils furent sortis tous 3 par cette entrée qui paraissait honteuse de ne pas ressembler aux autres, l'oncle ayant instinctivement pris le bras d'Aimé comme celui sur lequel on pouvait le plus compter, « Comme ça, Aimé, te voilà inquiète sur mon compte ?» Et elle était jolie, elle le savait, et elle était un peu fière de sa beauté. Aussi la condescendance avec laquelle elle oubliait en ce moment la supériorité de ses charmes et de son expérience du monde, pour s'adresser à sa sœur presque sur un pied d'égalité, était un grand sacrifice fait au devoir de famille. « Tout ce qui te regarde, Fanny, m'occupe et m'intéresse. »« C'est vrai, c'est vrai. Tu es une bonne petite sœur. Si je suis quelquefois un peu contrariante, je suis sûre que tu te rappelleras ce que c'est que de se trouver dans une position comme la mienne et de savoir combien elle est au-dessous de moi. » Cela me serait encore égal, dit la fille aînée du père de la maréchaussée, si les autres n'étaient pas si communs. Aucun d'eux n'est tombé de si haut que nous. Ils n'ont pas changé de niveau. Pouah, qu'ils sont communs. La petite Dorite jeta sur son interlocutrice un regard indulgent, mais sans l'interrompre. Fanny tira son mouchoir et s'essuya les yeux d'un air mécontent. « Je ne suis pas née dans le même endroit que toi, Aimée, » continua-t-elle, « et peut-être cela fait-il une différence. Ma chère enfant, lorsque nous serons débarrassés de notre oncle, je te dirai tout. Nous allons le laisser chez le gargotier où il va dîner. » Ils continuèrent tous trois à s'avancer jusqu'à ce qu'ils furent arrivés dans une sale rue où ils s'arrêtèrent devant la sale montre d'une boutique de rôtisseurs dont les vitres étaient rendues opaques par la vapeur des viandes, des légumes et des puddings chauds. On pouvait néanmoins entrevoir un gigot de porc rôti qui versait des larmes imprégnées de sauge et d'oignons dans un réservoir métallique rempli de sauce. Un énorme et onctueux roast beef, au-dessous duquel un Yorkshire pudding rissolait dans une lèche frite. Un filet de veau farci qui disparaissait par tranches rapides. Un jambon qui s'en allait si vite qu'il en suait. Une platée de pommes de terre cuites à l'eau, toute gluante, une botte ou deux de choux verts bouillis et autres friandises substantielles. À l'intérieur se trouvaient divers compartiments en bois, assez semblables au stall d'une écurie, où les pratiques, qui trouvaient plus commode d'emporter leur dîner dans leur estomac que de le tenir à la main jusque chez elles, se lestaient dans leur coin. Fanny, ouvrant son réticule à la vue de ses richesses gastronomiques, tira de ce trésor un shilling qu'elle remit à son oncle. Celui-ci, après avoir regardé quelque temps la pièce de monnaie, devina ce qu'il devait en faire et marmottant « Dîner ! Ah oui, oui !» quitta ses nièces et disparut lentement dans le brouillard culinaire. « Maintenant, Aimée, dit la sœur aînée, viens avec moi. Si tu n'es pas trop fatiguée, pour marcher jusqu'à Harley Street, Cavendish Square. » La façon dont elle prononça cette adresse aristocratique et releva d'un coup de tête son chapeau neuf, plus coquet que solide, étonna la petite Dorit, qui répondit pourtant qu'elle était prête à l'accompagner jusqu'à Harley Street, et elles dirigèrent leurs pas de ce côté. Arrivées dans cet élégant voisinage, Fanny s'arrêta devant la plus belle maison de la rue et, frappant à la porte, demanda à Madame Myrtle. Le valet qui ouvrit la porte, quoiqu'il eût les cheveux poudrés, et se trouva flanqué de deux autres valets poudrés comme lui, loin de refuser la porte, déclara tout de suite que Madame Myrtle était chez elle et pria même Fanny de vouloir bien entrer. Fanny entra, accompagnée de sa sœur. Elles montèrent jusqu'au premier étage, précédées d'une tête poudrée et laissant les deux autres au bas de l'escalier. Là, elles attendirent dans un grand salon semi-circulaire, faisant partie d'une suite de salons où un perroquet, en train de se promener à l'extérieur d'une cage dorée, s'y accrochait par le bec, ses jambes écailleuses en l'air, prenant une foule de poses bizarres à la renverse. C'est une disposition qui n'est pas particulière aux perroquets. On la trouve également chez d'autres oiseaux sans plumes, qui prennent volontiers cette attitude pour grimper le long des fils dorés qui les attirent. Le salon était beaucoup plus magnifique que tout ce que la petite Dorite avait imaginé. Il aurait paru magnifique et somptueux aux yeux les plus habitués au luxe. La jeune fille regarda sa sœur d'un air ébahi et lui aurait adressé une question si Fanny n'avait pas froncé les sourcils en lui indiquant une portière de tapisserie qui cachait l'entrée d'un autre salon. Un moment après, la portière s'agita et une dame, dont la main chargée de bagues venait de l'écarter, la laissa se refermer derrière elle et entra. La dame ne sortait pas toute jeune et toute fraîche des mains de la nature, mais elle sortait jeune et fraîche des mains de sa femme de chambre. Elle avait de beaux grands yeux qui ne disaient rien, de beaux grands cheveux noirs qui n'en disaient pas davantage, et de belles épaules non moins insipides. Soit qu'elle se crût enrhumée, soit qu'elle trouvât que cet ornement allait bien à son genre de beauté, elle portait autour de sa tête un riche filet rattaché sous le menton. Et si jamais il a existé un beau menton qui ne dise rien, auquel nulle main d'homme n'a jamais été tentée de faire une politesse, c'était bien ce menton serré et emprisonné par cette bride de dentelle. « Madame Myrtle, » dit Fanny, faisant office de maîtresse des cérémonies et d'introductrice Ma sœur, madame. Je suis charmé de voir votre sœur, mademoiselle Dorrit. Je ne me rappelais pas que vous eussiez une sœur. Je ne vous avais pas dit que j'en eusse une. Ah ah! Madame Merdle courba le petit doigt de sa main gauche, comme qui dirait « Je vous y prends. Je savais bien que vous ne m'en aviez rien dit. » Tous les gestes de Madame Merdle étaient confiés à sa main gauche. Parce que ses deux mains ne faisaient pas la paire, la main gauche était de beaucoup la plus blanche et la plus potelée. Ensuite elle ajouta « Asseyez-vous » et s'arrangea voluptueusement dans un nid de coussins pourpre et or, sur une ottomane peu éloignée du perroquet. « Une artiste aussi ?» demanda Madame Merdle, regardant la petite Dorrit à travers son lorgnon. « Non, » répondit Fanny. « Non ?» répéta Madame Merdle, laissant retomber son lorgnon. « En effet, elle n'a pas l'air d'une artiste. Charmante, mais pas l'air artiste. » « Ma sœur, madame, » dit Fanny, chez laquelle il y avait un singulier mélange de déférence et de hardiesse, m'a prié de lui dire, comme cela se fait entre sœurs, comment j'avais eu l'honneur de vous connaître. Et comme je vous avais promis de vous faire encore une visite, j'ai cru que je pouvais prendre la liberté de l'amener avec moi, dans l'espérance que vous voudrez peut-être bien lui dire ce qu'elle tient à savoir. Je désire qu'elle le sache, et peut-être voudrez-vous bien le lui dire. « Croyez-vous qu'à l'âge de votre sœur, » insinua Madame Merdle, « elle est beaucoup plus âgée qu'elle ne le paraît, » dit Fanny, « presque aussi âgée que moi. » La société, reprit Madame Merdle, imprimant une nouvelle courbe à son petit doigt, est si difficile à expliquer aux jeunes personnes, car il y a même des gens d'un âge mûr qui ont de la peine à rien y comprendre, que je suis ravi de ce que vous me dites. Je voudrais que la société fût moins arbitraire, je voudrais qu'elle fût moins exigeante. Taisez-vous, Jaco. Jaco venait de pousser un cri perçant, comme s'il eût été le représentant de la société, et qu'il eût prétendu soutenir qu'elle avait le droit de se montrer exigeante. Mais, poursuivit Madame Merdle, il faut la prendre telle qu'elle est. Nous savons qu'elle est superficielle, conventionnelle, mondaine, abominable pour tout dire, mais, à moins d'être des sauvages des mers du tropique, j'aurais été charmé pour ma part de naître dans ces parages. On dit que la vie y est délicieuse et le climat admirable. Nous sommes tenus de compter avec la société. C'est le sort commun. M. Merdle est un des premiers banquiers de l'Angleterre. Sa fortune et son influence sont très grandes, mais il n'en est pas moins obligé à « Taisez-vous, Jaco !» Le perroquet, en poussant un autre cri, avait complété la phrase d'une manière si expressive que Madame Merdle se dispensa de la terminer autrement. « Puisque votre sœur désire que je profite de cette dernière entrevue, » reprit la dame en s'adressant à la petite Dorrit, « pour vous raconter les circonstances où elle a joué un rôle qui lui fait honneur, je ne saurais que m'empresser d'accéder à son désir. J'ai un fils, j'étais extrêmement jeune lorsque je me suis marié pour la première fois, de 22 ou 23 ans. » Fanny serra les lèvres et lança un coup d'œil presque triomphant à sa sœur. « Un fils de 22 ou 23 ans. Il est un peu étourdi. C'est un défaut que la société est habituée à tolérer chez les jeunes gens. Et très impressionnable. Peut-être a-t-il hérité de moi ce malheureux défaut. Je suis moi-même d'une nature très impressionnable. La plus faible des créatures. Un rien m'attendrit. » Elle prononça ces paroles, ainsi que toutes les autres paroles qu'elle prononçait, aussi froidement que l'aurait pu faire une femme de neige. Complètement oublieuse de la présence des deux sœurs, sauf à quelques rares intervalles, et ayant l'air d'adresser la parole à cette idée abstraite qui s'appelle la société, en honneur de laquelle elle arrangeait aussi de temps en temps sa toilette ou sa pose. « Mon fils est donc très impressionnable. Ce ne serait pas un malheur si nous vivions à l'état de nature, je n'en doute pas. Mais nous vivons tout autrement. C'est fort regrettable, surtout pour moi qui serais un enfant de la nature, si je pouvais seulement suivre mes inclinations. La société ne le veut pas. Elle nous supprime et nous domine. Taisez-vous !» Le perroquet, après avoir tordu plusieurs barreaux de sa cage avec son bec recourbé et les avoir léchés ensuite avec sa langue noire, venait de pousser un bruyant éclat de rire. Il est tout à fait inutile de rappeler à une personne douée d'autant de bon sens, ayant votre vaste expérience et vos sentiments cultivés, continua Madame Merdle du fond de son nid de pourpre et d'or, et à ce moment elle leva son lorgnon afin de se rafraîchir la mémoire et de ne pas oublier à qui elle parlait, que la scène exerce parfois une certaine fascination sur un jeune homme impressionnable. Quand je dis « la scène », je ne parle bien entendu que des personnes du sexe qui s'y montrent. Or, lorsqu'on vient me dire que mon fils passait pour avoir été fasciné par une danseuse, je savais ce que la société entendait par là, et je dus conclure qu'il s'agissait d'une danseuse de l'opéra, car c'est là que les jeunes gens reçus dans la société ont l'habitude d'aller se faire fasciner. Elle daigna jeter un coup d'œil sur les deux jeunes filles, tandis qu'elle passait ses deux mains blanches l'une sur l'autre avec un grincement désagréable produit par le frottement des bagues qui décoraient ses doigts. Votre sœur vous dira que je fus très surprise et très peinée en apprenant de quel théâtre il s'agissait. Mais lorsque je sus que votre sœur, en repoussant les avances de mon fils, avec une sévérité inattendue, je dois l'avouer, l'avait amené à lui faire une proposition de mariage, j'éprouvais une angoisse profonde, indicible. Elle passa un doigt sur son sourcil gauche pour en rétablir la symétrie. En proie à une inquiétude qu'une mère, mère qui connaît le monde, peut seule ressentir, je résolus d'aller moi-même au théâtre et de dévoiler à la danseuse l'agitation de mon âme. Je me présentai à votre sœur. Je trouvai, à ma grande surprise, qu'elle différait, sous beaucoup de rapports, de l'idée que je m'en étais faite. Et ce qui m'étonna surtout, c'est que de son côté, elle mit en avant, comment dirais-je, une sorte de prétention sociale. Madame Merdle sourit en prononçant ces paroles. « Je vous ai dit, madame, remarqua Fanny, tandis que le rouge lui montait à la figure, que malgré la position où vous me trouviez, j'étais tellement au-dessus de mes camarades par ma naissance que je me regardais comme étant d'aussi bonne famille que monsieur votre fils, et que j'avais un frère qui, s'il connaissait l'offre de monsieur votre fils, serait du même avis que moi et ne regarderait pas une pareille union comme un trop grand honneur pour nous. » Mademoiselle Dorrit, répliqua madame Merdle, après l'avoir contemplée d'un air glacial au travers de son lorgnon, « c'est justement ce que j'allais dire à votre sœur pour satisfaire à votre prière. Merci d'avoir rappelé les faits avec tant d'exactitude et de m'avoir prévenu. » À l'instant, elle s'adressait maintenant à la petite Dorrit, car je n'agis que par impulsion, je détachai un bracelet de mon bras et je priai votre sœur de me permettre de l'attacher autour du sien en témoignage du vif plaisir que j'éprouvais de pouvoir entamer les négociations sur un certain pied d'égalité. Il n'y avait rien de plus vrai. La dame ayant acheté un bijou qui avait plus d'apparence que de valeur, en se rendant au théâtre, avec de vagues intentions de corruption. « Et je vous ai dit, madame Merdle, poursuivit Fanny, que nous pouvions avoir eu des malheurs, mais que nous n'étions pas des gens du commun. En effet, mademoiselle Dorrit, je crois que ce sont là les propres paroles dont vous vous êtes servie. Et je vous ai également dit, madame Merdle, continua Fanny, que si vous me parliez de la supériorité du rang que votre fils occupe dans la société, vous pourriez bien vous tromper un peu dans vos suppositions relativement à ma naissance, et que la position de mon père, dans la société même à laquelle il appartient en ce moment, quelle société, c'est ce qui vous restait à savoir, était une position éminemment plus élevée, dont personne autour de lui ne songeait à contester la supériorité. « Parfaitement exact, remarqua madame Merdle, une mémoire merveilleuse. Merci, madame. Peut-être voudrez-vous bien raconter le reste à ma sœur. » « Il y a fort peu de choses à ajouter, dit madame Merdle, passant en revue cette belle poitrine, assez large pour que son indifférence insipide puisse y étaler à l'aise, mais c'est encore à l'avantage de votre sœur. J'ai expliqué à votre sœur le véritable état de la situation. Je lui laissais entrevoir qu'il était impossible que la société à laquelle nous appartenons, mon fils et moi, se mît en rapport avec la société à laquelle elle appartient, tout agréable qu'elle pût être. Je lui ai fait entrevoir les désagréments qu'elle pourrait attirer à cette famille dont elle est si justement fière, mais que nous nous verrions obligés de traiter avec mépris, et donc, socialement parlant, nous serions forcés de nous éloigner avec dégoût. Bref, je fis un appel à l'orgueil bien louable de votre sœur. Que ma sœur sache aussi, s'il vous plaît, madame Merdle, dit Fanny d'un air boudeur et en hochant la tête, que j'avais déjà eu l'honneur de prier votre fils de me laisser tranquille. Eh bien, mademoiselle Dorrit, dit madame Merdle, Peut-être aurais-je dû commencer par là. Si je n'y ai point pensé, c'est sans doute parce que je songeais uniquement au premier temps de votre connaissance, où j'ai craint tout d'abord que mon fils n'insistât pour vous faire accepter ses assiduités. J'ai dit aussi à votre sœur, je m'adresse encore à la demoiselle Dorit qui n'est point artiste, que mon fils n'aurait pas un sou dans le cas où il ferait un pareil mariage, et qu'il ne lui resterait d'autre ressource que de se faire mendiant. Je mentionne le fait simplement parce qu'il appartient à l'histoire que l'on me prie de raconter, et non parce que je suppose qu'il ait pu exercer d'autres influences sur l'esprit de votre sœur que cette pression prudente et légitime que nous devons tous subir, vu l'état artificiel de notre système social. Finalement, après quelques paroles irritées et énergiques de la part de votre sœur, nous sommes convenus qu'il n'y avait rien à craindre, et votre sœur a eu l'obligeance de me permettre de la recommander à ma modiste pour offrir quelques légers témoignages de ma considération. La petite Dorit parut très peinée et tourna vers Fanny un visage troublé. Les deux sœurs se levèrent en même temps, et toutes trois se tinrent debout près de la cage du perroquet, qui déchiquetait pendant ce temps-là un morceau de biscuit qu'il tenait dans la patte et le recrachait à mesure, en ayant l'air de se moquer d'elle et en exécutant une danse pompeuse avec son corps, sans remuer les pattes, jusqu'à ce qu'il finît même par se mettre tout à coup la tête et les jambes en l'air et à se traîner tout autour de la cage dorée au moyen de son bec impitoyable et de sa langue noire. Et aussi, poursuivit Madame Merdle, de me promettre le plaisir d'un dernier entretien avant de nous quitter les meilleurs amis du monde. À cette occasion, ajouta Madame Merdle, se levant et mettant quelque chose dans la main de Fanny, Mademoiselle Dorit me permettra de lui dire adieu et de lui souhaiter beaucoup de bonheur, quoique je ne sois pas d'humeur très expansive. Adieu, Mademoiselle Dorit, vous emportez mes meilleurs souhaits, dit Madame Merdle. Si l'âge d'or ou quelque chose d'approchant pouvait renaître, je serais ravi pour ma part de cultiver la connaissance d'une foule de personnes charmantes et pétries de talent. Malheureusement, c'est un plaisir dont je suis forcé de me priver pour le moment. Une société qui aurait des usages plus primitifs ferait mes délices. Je me rappelle que, quand je récitais encore des leçons, on me faisait apprendre un poème commençant par « Voyez le pauvre Indien dont l'esprit » Il y avait une épithète à cet esprit, mais je ne sais plus le reste. S'il était seulement permis à quelques milliers de gens du monde de redevenir des Indiens, je m'inscrirais de suite en tête de la liste. Mais comme par malheur, nous autres gens du monde, nous ne pouvons redevenir des Indiens, bonjour. Les deux sœurs redescendirent l'escalier, précédées par une tête poudrée et suivies par deux autres têtes également poudrées. Fanny, fière et dédaigneuse, la petite Dorit humiliée, et elles se retrouvèrent de nouveau sur le pavé, plus crotté que poudré de Harley Street, Cavendish Square. « Eh bien, » demanda Fanny, lorsqu'elles eurent fait quelques pas en silence, « n'as-tu rien à me dire, Amy ?»« Oh, je ne sais que te dire, » répondit la petite Dorit, tout attristée. « Tu n'aimais pas ce jeune homme, Fanny. »« L'aimer ? Il est presque idiot. »« Je suis si fâchée. Je ne veux pas te froisser. » Mais puisque tu me demandes ce que j'ai à te dire, je suis très fâchée, Fanny, que tu aies souffert que cette dame te donnât quelque chose. Petite sotte, répliqua sa sœur, qui la tira par le bras en la secouant rudement. Tu n'as donc pas de sang dans les veines? Mais c'est toujours comme cela. Tu ne sais pas te respecter. Tu n'as pas de noble orgueil. De même que tu te laisses suivre par ce méprisable petit nabot de Chivery, avec une intonation des plus dédaigneuses, tu voudrais que ta famille se laissât fouler aux pieds sans se redresser. Ne dis pas cela, chère Fanny. Je fais ce que je puis pour elle. Tu fais ce que tu peux pour elle, répéta Fanny, l'obligeant à marcher très vite. Tu voudrais donc laisser une femme comme celle-là, que tu reconnaîtrais pour la plus fausse et la plus insolente des femmes, si tu avais la moindre expérience, tu voudrais lui laisser mettre le pied sur la gorge de ta famille, sans lui dire autre chose que « Merci, madame ». « Non, Fanny, non, certainement. Alors fais-lui payer son insolence, enfant sans dignité que tu es. Quelle autre manière as-tu de te venger ? Fais-lui payer son insolence, petite bécasse, et dépense son argent pour le plus grand honneur de ta famille. » Elles ne se parlèrent plus et continuèrent leur chemin jusqu'à la maison habitée par Fanny et son oncle. En y arrivant, elles trouvèrent le vieillard qui étudiait sa clarinette, le plus tristement du monde, dans un coin de la chambre. Fanny avait à préparer un repas composite avec des côtelettes, du porter et du thé. Et elle fit semblant de la prêter, avec des airs indignés, tandis que c'était sa bonne petite sœur qui faisait réellement toute la besogne. Lorsqu'enfin Fanny se fut assise pour manger et boire, elle jeta les objets sur la table et se fâcha avec son pain, à peu près comme le doyen avait fait la veille. « Si tu me méprises, dit-elle en versant des larmes impétueuses, parce que je suis une danseuse, pourquoi m'as-tu fait faire le premier pas? Car c'est ton ouvrage. Tu aurais bien voulu me voir mettre à plat ventre devant cette Madame Myrtle et lui laisser dire et faire tout ce qu'elle veut et nous mépriser tous et me jeter à la face, parce que je suis une danseuse. Oh, Fanny, et t'es aussi, pauvre garçon. Elle peut le ravaler autant que ça lui plaît, sans que personne lui dise un mot, sans doute parce qu'il a été employé chez les hommes de loi, et dans les docks et ailleurs. Et pourtant, tout ça, c'est ton ouvrage, Amy. Tu devrais bien au moins me savoir gré d'avoir pris sa défense. » Pendant cet entretien, l'oncle soufflait tristement dans sa clarinette, sans sortir de son coin, suspendant parfois l'instrument à un pouce ou deux de sa bouche pour regarder ses deux nièces, avec une vague impression que quelqu'un avait dit quelque chose. « Et ton père, ton pauvre père, Amy, parce qu'il n'est pas libre, parce qu'il ne peut pas se montrer et plaider sa propre cause, tu voudrais que je laisse des gens de cette espèce l'insulter impunément? Si tu ne te sens pas toi-même, parce que tu vas travailler en journée, tu pourrais au moins ne pas rester insensible à l'honneur de ton père, sachant tout ce qu'il souffre depuis si longtemps. » L'injustice de ce reproche blessa profondément la pauvre petite Dorrit. Le souvenir de la scène de la veille aiguisait encore la pointe du dard décochée par Fanny. Elle ne répondit pas. Elle tourna seulement sa chaise vers le feu. L'oncle, après une nouvelle pause, souffla une note qui ressemblait à un lugubre gémissement et poursuivit ses études. Fanny se fâcha contre les tasses et le pain tant que dura sa colère. Puis elle déclara qu'elle était la plus malheureuse fille du monde et qu'elle voudrait bien être morte. Ensuite, ses larmes devinrent repentantes. Alors elle se leva et mit ses bras autour du cou de sa sœur. La petite Dorrit voulut l'empêcher de parler, mais elle dit qu'elle voulait parler, qu'il fallait qu'elle parlât. Là-dessus, elle répéta à plusieurs reprises « Je te demande pardon, Amy. » Et « Pardonne-moi, Amy », avec presque autant de vivacité que les paroles qu'elle regrettait d'avoir dites. « Mais vraiment, vraiment, Amy, » reprit-elle, lorsqu'elles se furent embrassées et assises à côté l'une de l'autre, « j'espère et je crois que tu aurais jugé cette affaire d'une façon toute différente si tu connaissais un peu mieux la société. » « C'est bien possible, Fanny, » répondit la douce petite Dorrit. « Vois-tu, tandis que tu es restée casanière et résignée à ton sort, Amy, » poursuivit la sœur aînée, reprenant petit à petit un ton protecteur, « moi, j'ai vécu dans le monde, et je suis devenue orgueilleuse et hautaine, plus que je n'aurais dû, peut-être. » La petite Dorrit répondit « Oui, oh oui. » Et tandis que tu songeais aux soins matériels du ménage, moi, je songeais peut-être à l'honneur de la famille, tu sais. Cela se peut bien, n'est-ce pas, Aimée ? La petite Dorrit fit un signe de tête affirmatif et montra un visage plus joyeux que ne l'était son cœur. « Surtout, sachant, comme nous le savons, continua Fanny, qu'il existe certainement dans la prison à laquelle tu es restée si fidèle une atmosphère spéciale qui la rend bien différente des autres points de vue de la société. Ainsi donc, embrasse-moi encore une fois, ma chère aimée, et convenons ensemble que nous pouvons avoir toutes les deux raison, ce qui ne t'empêche pas d'être une bonne fille, bien tranquille, bien casanière, une excellente femme de ménage. » Pendant ce dialogue, la clarinette avait continué à se lamenter d'une façon très pathétique. Mais elle fut brusquement interrompue par Fanny, qui lui annonça qu'il était temps de partir, en fermant le chiffon de musique qu'il étudiait et en lui retirant la clarinette de la bouche. La petite Dorrit les quitta devant la porte et se hâta de retourner à la prison de la maréchaussée. La nuit y venait plus tôt qu'ailleurs, et en rentrant ce soir-là, il sembla à la jeune fille qu'elle descendait dans un fossé profond. L'ombre du mur attristait tout. Elle attristait bien plus encore le vieillard en robe de chambre grise et en culotte de velours noir, qui tourna la tête vers la petite Dorrit lorsqu'elle entra dans la salle mal éclairée. « Pourquoi ne m'attriste-t-elle pas aussi bien que les autres ?» pensa la petite Dorrit, la main encore sur le bouton de la porte. Fanny avait peut-être raison, après tout. Chapitre 21. La maladie de M. Merdle. Quant à cette pompeuse habitation, l'hôtel Merdle de Harley Street, Cavendish Square, nul mur moins aristocratique que ceux des autres habitations pompeuses qui lui faisaient face, n'avait le privilège d'y projeter son ombre. Aussi collée montée que la société la plus difficile, les maisons opposées de Harley Street gardaient leur décorum les unes envers les autres. Même les habitations et les habitants se ressemblaient tellement sous ce rapport qu'on voyait souvent les gens garder à table dans un dîner l'alignement naturel de leurs hôtels, en vis-à-vis, à l'ombre de leur propre grandeur, regardant leur voisine face avec la gravité impassible de leurs résidences respectives. Tout le monde sait que dans un dîner, les deux rangées de convives qui se piquent d'habiter telle ou telle rue ressemblent d'une manière frappante à la rue elle-même. Ces 20 maisons uniformes et sans caractère, qu'on aborde au moyen des mêmes marches monotones, toutes protégées par un grillage d'un modèle identique, ayant toutes le même appareil de sauvetage contre l'incendie, également impraticable, la tête garnie des mêmes meubles incommodes, avec de grands airs dont il n'y a rien à rabattre, qui donc ne les a pas retrouvés à table dans un dîner. Cette maison délabrée, cette maison prétendue gothique, cette maison revêtue de stuc, cette maison dont on a renouvelé la façade, celle du coin qui ne contient que des chambres anguleuses, cette autre au store toujours baissé, cette autre avec ses écussons toujours en l'air, la maison où le visiteur vient comme le percepteur en tournée pour toucher un quart d'idée et s'en retourne sans avoir rien trouvé que les quatre murs. Qui donc ne les a pas retrouvés en chair et en os à table dans quelque dîner? La maison que personne ne veut louer et qu'on laisserait à bon marché, qui donc ne rencontre pas tout ça? La maison d'apparat qui a été prise à long bail par le gentleman désappointé et qui ne lui convient pas du tout, qui donc ne s'est pas trouvé en vis-à-vis avec cette acquisition diabolique? Quant à Harley Street, Cavendish Square, ce beau quartier ne se contentait pas de savoir qu'il y avait un monsieur et une madame Merdle. Il y avait bien dans Harley Street des intrus que cette rue s'obstinait à ne pas voir, mais elle se faisait un honneur de reconnaître et d'honorer pour ses hôtes monsieur et madame Merdle. La société tenait compte de monsieur et madame Merdle. La société leur avait donné patente, ce sont des gens à voir, avait-elle dit. Monsieur Merdle était immensément riche, d'une hardiesse commerciale prodigieuse. Un Midas moins les oreilles, qui transformait en or tout ce qu'il touchait. Il était de toutes les bonnes entreprises, depuis une affaire de banque jusqu'à une bâtisse. Il siégeait dans le Parlement, cela va sans dire. Il avait ses bureaux dans la cité, bien entendu. Il était président de cette compagnie-ci, administrateur de celle-là, directeur de cette autre. Les hommes les plus influents avaient demandé à des auteurs de projets financiers « Voyons, quel nom avez-vous? Avez-vous Merdle ?» D'après une réponse négative, ils avaient ajouté « Alors, pas d'affaires. Je vous souhaite bien le bonjour. » Il y avait déjà une quinzaine d'années que cet heureux grand homme avait fourni un nid de pourpre et d'or à l'abondante poitrine qui avait besoin de tant de place pour étaler à son aise son insensibilité. Ce n'était pas là une poitrine où un mari put reposer sa tête fatiguée, mais c'était une fameuse poitrine pour y pendre des bijoux. M. Merdle avait besoin de quelque chose comme cela pour y pendre des bijoux. Il trouva cette poitrine-là bonne pour la chose et l'acheta. Storr et Mortimer, les joailliers à la mode, auraient eu à choisir une femme qu'ils se seraient sans doute mariés par le même principe de spéculation. Comme toutes les autres spéculations de M. Merdle, celle-là tourna bien. Les bijoux produisirent autant d'effets que possible. La poitrine étant reçue dans la société et s'y montrant ornée de ses bijoux, excita une admiration générale. Fort de l'approbation de la société, M. Merdle fut satisfait. C'était le plus désintéressé des hommes. Il faisait tout pour la société. Ses gains immenses et ses soucis lui profitaient aussi peu que possible à lui-même. Ou plutôt, on peut supposer qu'il ne lui manquait rien. Autrement, avec sa fortune illimitée, il se serait certainement procuré ce qu'il voulait. Mais son unique désir était de satisfaire autant que possible la société, quel que soit le sens de cette vague expression, et de faire honneur à toutes les traites de politesse qu'il pouvait tirer sur lui. Il ne brillait pas dans le monde, il n'avait pas grand-chose à dire. C'était un homme réservé, qui avait une grosse tête, penchée, observatrice, les joues animées de ce teint rouge, qui est plutôt de l'échauffement que de la fraîcheur, un peu d'agitation inquiète au bout des manches de son habit, comme si elles étaient dans sa confidence et qu'elles eussent, à raison de leur voisinage, plus de raison que personne de vouloir cacher ses mains. Le peu qu'il disait le faisait passer pour un homme assez agréable, simple, mais ne plaisantant pas sur l'article de la confiance publique ou privée, et très chatouilleux à l'endroit de la déférence que chacun était tenu d'avoir pour la société. Dans cette même société, pourtant, si c'est elle qui venait à ses dîners, aux réceptions et aux concerts de Madame Meurdre, il ne paraissait guère s'amuser, et la plupart du temps il se tenait contre les murs et derrière les portes. Puis, quand il se rendait chez les autres membres de la société, au lieu d'y être à son aise, il paraissait un peu fatigué et plus disposé à aller se coucher, mais il n'en cultivait pas moins assidûment la société et la fréquentait sans cesse, dépensant son argent pour elle avec une libéralité extrême. Le premier mari de Madame Meurdre avait été un colonel, sous les auspices duquel la poitrine avait eu occasion d'entrer en lutte avec les neiges de l'Amérique du Nord, et si elle y avait été vaincue sous le rapport de la blancheur, elle l'avait emporté sur celui de la froideur. Le fils du colonel était l'unique enfant de Madame Meurdre. C'était une tête stupide, montée sur des épaules ramassées. Il ressemblait moins à un jeune homme qu'à un gros poupard. Il avait donné si peu de signes de raison que ses camarades faisaient courir le bruit que son cerveau avait été gelé par un froid de 30 degrés qui avait régné à St. John, New Brunswick, à l'époque de sa naissance, et que son esprit n'avait jamais connu de dégel depuis ce moment. Une autre plaisanterie le représentait comme étant tombé, au jour de son enfance, du haut d'une maison sur le pavé de la rue, où des témoins dignes de foi avaient entendu son crâne se fêler. Il est possible que ces deux anecdotes n'aient été inventées qu'après coup, le jeune homme, dont le nom expressif était Sparkla, ayant la monomanie d'offrir le mariage à toutes sortes de demoiselles peu désirables et de dire de chaque personne à laquelle il faisait une proposition conjugale que c'était une fille bigrement jolie et très bien élevée dame et qui ne faisait pas sa bégueule. Un beau-fils doué d'une intelligence aussi restreinte eût pu être une gêne pour un autre homme. Mais M. Meurdre n'avait pas besoin d'un beau-fils pour lui-même. S'il en avait pris un, c'était pour faire plaisir à la société. M. Sparkla, ayant été dans un régiment des gardes et étant habitué à se montrer à toutes les courses, dans toutes les promenades et dans tous les bals, par conséquent étant très connu, la société fut satisfaite du beau-fils que lui donnait M. Meurdre. Le banquier se fut trouvé heureux de payer plus cher encore un aussi heureux résultat, quoique ce jeune Sparkla, dont il faisait cadeau à la société, fut pour lui un objet fort coûteux. On donna un grand dîner dans l'établissement de Harley Street, le soir même où la petite Dorrit commença à piquer les chemises neuves destinées au vieillard auprès duquel elle travaillait. Il y avait les grands seigneurs de la cour et les grands seigneurs de la bourse, les puissances de la chambre des communes et celles de la chambre des lords, les notabilités de la magistrature et du barreau, la fleur de l'épiscopat et du ministère des finances, la crème de l'armée et de la marine, enfin des échantillons de tous les grands seigneurs et potentats qui nous font marcher dans ce bas monde quand ils ne nous font pas trébucher. On me dit, remarqua un membre de l'épiscopat à un membre de l'état-major, que M. Meurdre vient encore de faire un coup de bourse énorme. On parle de 100 000 livres sterling. L'état-major avait entendu dire 200. Un haut fonctionnaire de la trésorerie dit qu'il avait entendu parler de 300. Une notabilité du barreau jouant avec son binocle persuasif, dit « Je ne voudrais pas juger que M. Myrtle n'en ait pas gagné quatre. » C'est là un de ces heureux effets du calcul et des combinaisons dont il est difficile de deviner le résultat exact. Un de ces exemples, fort rarement donné à notre siècle, d'une adresse intelligente, jointe à un bonheur constant et à une hardiesse caractéristique. Mais voici mon collègue Bellows, qui a plaidé dans cette grande affaire de la banque et qui sera peut-être à même de nous en dire davantage. Que pense notre collègue Bellows de ce nouveau succès de M. Myrtle? Notre collègue Bellows était en route pour faire sa révérence à la poitrine et n'eut que le temps de dire en passant qu'il avait entendu affirmer, avec une grande apparence de vérité, que M. Myrtle n'avait pas réalisé moins d'un demi-million de livres sterling. La notabilité maritime dit que M. Myrtle était un homme prodigieux. Un haut fonctionnaire de la trésorerie dit que M. Myrtle représentait une nouvelle puissance dans le pays et qu'il pourrait acheter toute la Chambre des communes en bloc. La fine fleur de l'épiscopat dit qu'il était heureux de penser que toutes ses richesses tombaient dans la caisse d'un gentleman qui se montrait toujours disposé à défendre les intérêts de la société. M. Myrtle lui-même n'apparaissait que fort tard, d'habitude, lors de ses réunions, comme il convient à un homme qui est encore retenu dans l'étreinte d'entreprises gigantesques, lorsque les autres hommes ont abandonné jusqu'au lendemain leurs mesquines occupations. Ce soir-là, il arriva le dernier. Le haut fonctionnaire de la trésorerie dit que Myrtle se rendait bien esclave de ses affaires. La fine fleur de l'épiscopat fut heureuse de penser que toutes ses richesses tombaient dans la caisse d'un gentleman qui les acceptait avec un esprit d'humilité chrétienne. De la poudre, toujours de la poudre. Et y en avait-il, bon Dieu, dans les cheveux des valets? Le dîner en était tout parfumé. Les molécules poudreuses voltigeaient dans les plats, et la société mangeait des viandes assaisonnées à la même sauce que les laquais de bonne maison. M. Myrtle donna le bras à une comtesse qui était cachée quelque part dans les plis d'une robe immense, comme le cœur d'un gros chou se cache dans la masse de ses feuilles touffues. S'il était permis d'employer une comparaison aussi vulgaire, en parlant d'une comtesse, nous dirions que cette riche robe de brocart descendit l'escalier comme les petits ramoneurs qui, le premier jour du mois de mai, se promènent dans les rues sous une forêt de branches, où ils sont si bien cachés qu'on ne voit pas quel est là-dessous le petit être qui fait marcher tout ce feuillage. La société eut à ce dîner tout ce qu'il lui fallait et plus encore. Elle eut tout ce qu'il peut y avoir à admirer, tout ce qu'il peut y avoir à manger, tout ce qu'il peut y avoir à boire. Nous aimons donc à croire qu'elle s'en donna à cœur joie. Mais quant à M. Myrtle, son écho personnel de consommation ne valait pas plus d'un shilling. Madame Myrtle était resplendissante. Le maître d'hôtel de M. Myrtle était, après la dame de la maison, ce qu'il y avait de plus beau à voir ce jour-là. C'était le personnage le plus majestueux de la société. Il ne faisait rien, mais il regardait faire les autres avec une dignité dont peu d'hommes eussent été capables. Ce fonctionnaire était le dernier cadeau offert par M. Myrtle à la société. M. Myrtle n'avait pas besoin de ce maître d'hôtel. Il se sentait même gêné en face de cet être pompeux quand l'autre le regardait. Mais il fallait absolument à la société inexorable un maître d'hôtel pour Madame Myrtle, et M. Myrtle lui avait donné satisfaction. Au moment voulu par les us et coutumes de la société, c'est-à-dire au dessert, la comtesse invisible ouvrit la marche et transporta sa robe jusqu'au premier étage. Le défilé de la beauté fut fermé par la poitrine, le haut fonctionnaire de la trésorerie dit « par Junon », la fleur de l'épiscopat dit « par Judith ». La notabilité du barreau entama avec l'état-major une discussion à propos des conseils de guerre. Notre collègue Bellows et l'honneur de la magistrature y prirent part. D'autres notabilités disparurent deux à deux pour aller rejoindre les dames. M. Myrtle demeurait silencieux et regardait la nappe. Quelquefois, une notabilité quelconque lui adressait la parole, cherchant à diriger vers lui le courant de la conversation, mais M. Myrtle faisait rarement attention à ses aimables efforts. S'il sortait de ses rêveries arithmétiques, ce n'était que pour passer le vin. Lorsqu'on se leva, il se trouva tant de notabilité qui avait quelque chose à dire à M. Merdle individuellement, qu'il fut obligé de tenir des petits levées près du buffet, effaçant le nom de chacune d'elles de sa liste imaginaire d'audiences impromptues à mesure qu'un solliciteur disparaissait. Le haut fonctionnaire de la trésorerie espéra qu'il lui serait permis de féliciter une des célébrités commerciales de l'Angleterre, un de ses négociants princiers, qui ont su se faire une réputation cosmopolite. Cette phrase originale lui avait déjà servi plusieurs fois à la Chambre, aussi la débitait-il couramment sur la nouvelle victoire qu'il venait de remporter. Aidé au triomphe d'un homme comme M. Merdle, c'était accroître les succès et les ressources d'une nation. Et le haut fonctionnaire de la trésorerie donna à entendre à M. Merdle qu'il ne demandait pas mieux que de s'associer à ses efforts heureux par pur patriotisme. « Merci, milord, » dit M. Merdle, « merci. J'accepte vos félicitations avec orgueil et suis heureux de votre approbation. Mais je n'approuve pas sans réserve, mon cher M. Merdle, parce que le haut fonctionnaire, prit en souriant M. Merdle par le bras, le fit tourner vers le buffet et continua d'un ton badin, « parce que jamais vous ne songez à vous joindre à nous pour nous venir en aide. Cela n'en vaut pas la peine, n'est-ce pas ?» M. Merdle dit que c'était trop d'honneur pour lui que de... « Non, non !» interrompit le haut fonctionnaire de la trésorerie. « Ce n'est pas ainsi qu'un homme dont l'esprit pratique et la prévoyance sont bien connus doit envisager la question. On ne saurait s'y attendre. Si jamais nous sommes assez heureux pour que les circonstances nous permettent de proposer à un homme aussi éminent de se joindre à nous et de nous prêter l'appui de son influence, de ses connaissances et de son caractère, nous ne saurions lui adresser cette proposition que comme un devoir, oui, comme un devoir qu'il est tenu de remplir envers la société. » M. Merdle protesta que la société lui était aussi chère que la prunelle de ses yeux et qu'il sacrifierait tout plutôt que de la frustrer de ses droits. Le haut fonctionnaire de la trésorerie s'éloigna et l'honneur du barreau prit sa place. Cette notabilité, avec la petite révérence insinuante qu'il adressait si souvent à messieurs les jurés et un mouvement enjoué de son binocle persuasif, espéra qu'on ne lui en vaudrait pas s'il confiait à un homme habitué à transformer en source de bienfaits la source ordinaire de tous nos maux, à un homme qui répand un lustre éclatant sur les annales de ce pays commercial, s'il lui confiait, d'une façon désintéressée, et pour se servir d'une expression un peu pédante de nous autres avocats, en sa qualité d'amicus curiae, un fait qui était tout récemment venu à sa connaissance. Il avait eu à examiner les titres d'une propriété très étendue située dans un des comtés de l'Ouest, qui se trouvait en un mot, car M. Merdle savait que nous autres avocats nous aimons à préciser les faits, sur les confins de deux de nos comtés de l'Ouest. Or, ce titre était parfaitement en règle, et la propriété pouvait être acquise par quiconque avait de l'argent, révérence à l'usage de messieurs les jurés et binocle persuasif, tous deux mis en réquisition, à des conditions extrêmement avantageuses. L'honneur du barreau n'avait appris ce fait que dans le courant de la journée, et il s'était dit « J'aurai l'avantage de dîner ce soir avec mon estimable ami M. Merdle, et en toute confidence, je lui ferai part de l'occasion qui se présente. » Cette acquisition donnerait non seulement à l'acheteur une très grande et légitime influence politique, mais lui permettrait de disposer d'une demi-douzaine de cures d'un revenu annuel considérable. Or, l'honneur du barreau savait parfaitement que M. Merdle n'était jamais embarrassé de trouver des moyens d'employer ses capitaux, quelque vastes qu'ils fussent. Mais il prendrait la liberté de lui poser une question qui s'était présentée à lui. Un homme qui a si justement conquis une position élevée et une réputation européenne, ne devait-il pas, nous ne dirons pas à lui-même, mais à la société, de s'approprier cette influence et ce patronage, afin de les employer, nous ne dirons pas dans son propre intérêt, ni dans l'intérêt de son parti, mais dans l'intérêt de la société. M. Merdle déclara de nouveau qu'il était tout dévoué à cet objet de sa constante sollicitude, et l'honneur du barreau remonta au salon avec son binocle persuasif. La fine fleur de l'épiscopat se glissa alors par hasard du côté du buffet. Évidemment, comme il jugea à propos de le remarquer d'une façon incidente, les richesses de ce monde ne sauraient guère être mieux distribuées que lorsqu'elles s'accumulent sous la baguette magique d'un homme habile et prudent qui, tout en appréciant les trésors d'ici-bas à leur juste valeur, ici la fleur de l'épiscopat avait l'air de crier misère, n'ignore pas l'importance que ces mêmes trésors, bien gouvernés et judicieusement employés, exercent sur le bien-être de la masse de ses semblables. M. Merdle exprima humblement la conviction que ce n'était pas à lui que faisait allusion la fleur de l'épiscopat. Puis, avec une grande inconséquence, exprima immédiatement après le plaisir que lui causait l'estime épiscopale. La fleur de l'épiscopat, après avoir, avec une prestesse toute mondaine, allongé une jambe droite fort bien faite, comme pour dire à M. Merdle « Ne faites pas attention à mon tablier officiel, simple affaire de forme », soumit à son bon ami la question suivante. Est-il jamais venu à l'esprit de son bon ami que la société, sans se montrer trop exigeante, pouvait espérer qu'un homme, dont les entreprises prospéraient d'une façon si providentielle, et qui, du haut de son piédestal, pouvait donner à cette même société un exemple si influent, consentirait à répandre un peu de son or pour envoyer une mission ou deux en Afrique. M. Merdle, ayant promis de prendre la question en considération, aussi promptement que possible, la fleur de l'épiscopat lui en soumit une autre. Son bon ami s'était-il jamais intéressé aux opérations de notre comité des dignitaires, réunis pour l'augmentation des salaires cléricaux? Avait-il jamais songé que répandre un peu d'or dans cette direction, ce serait réaliser une belle inspiration? M. Merdle fit une réponse assez semblable à la première, et la fleur de l'épiscopat expliqua pourquoi il faisait cette question. La société comptait sur des âmes comme M. Merdle pour ces choses-là. Son bon ami voudrait bien remarquer que ce n'était pas un simple particulier qui comptait sur lui, mais la société. De même, ce n'était pas notre comité qui demandait des dignitaires réunis, mais bien la société qui se mourait d'envie d'en avoir. Son bon ami pouvait être convaincu que lui, l'évêque, appréciait au dernier point les services que son bon ami s'efforçait, en toutes circonstances, de rendre à la société. Et il croyait lui-même ne consulter que les intérêts de la société et n'exprimer que les sentiments de cette même société lorsqu'il souhaitait à M. Merdle un accroissement de prospérité, un accroissement de richesse et un accroissement général de tout ce qu'il pouvait désirer. La fleur de l'épiscopat se transporta à son tour au salon et les autres notabilités imitèrent peu à peu son exemple jusqu'à ce qu'il ne restât plus dans la salle à manger du rez-de-chaussée d'autres convives que M. Merdle. Ce gentleman, après avoir contemplé la nappe assez longtemps pour faire gonfler d'une noble indignation l'âme de son maître d'hôtel, monta lentement après les autres et perdit toute importance en se mêlant au flot qui gravissait le grand escalier. Madame Merdle était chez elle. Les plus beaux bijoux étaient accrochés d'une façon très visible sur la poitrine. La société avait ce qu'elle était venue chercher. M. Merdle but dans un coin pour 4 sous de thé et eut plus qu'il ne lui en fallait. Parmi les notabilités de la soirée se trouvait un célèbre médecin qui connaissait tout le monde et que tout le monde connaissait. En entrant dans un salon, il aperçut M. Merdle qui prenait son thé dans un coin et lui toucha le bras. M. Merdle tressaillit. « Oh, c'est vous, docteur ? Cela va-t-il mieux aujourd'hui ?»« Non, répliqua M. Merdle, je ne vais pas mieux. »« C'est dommage que je ne vous ai pas trouvé ce matin. Venez donc me voir demain ou laissez-moi passer chez vous. » « Eh bien, je me ferai descendre à votre porte demain en allant à mes bureaux. » L'honneur du barreau et la fleur de l'épiscopat avaient été témoins de ce court dialogue, et tandis que M. Merdle était entraîné par la foule, ils adressèrent leurs remarques au médecin. L'honneur du barreau dit qu'il y avait une certaine limite aux efforts de l'intelligence que l'homme ne pouvait dépasser impunément, que cette limite variait selon le tissu du cerveau, et le tempérament de chaque individu, ainsi qu'il avait eu l'occasion de le remarquer chez plusieurs de ses savants confrères. Mais si on dépassait de l'épaisseur d'un cheveu les bornes imposées par la nature, on devenait la victime de l'indigestion et des idées noires. Or, sans vouloir pénétrer en intrus dans le temple sacré et mystérieux de la médecine, il croyait, avec la révérence à l'usage de messieurs les jurés et un mouvement théâtral du lorgnon persuasif, que M. Merdle se trouvait dans ce cas. La fleur de l'épiscopat dit que dans sa jeunesse, ayant contracté pendant fort peu de temps l'habitude d'écrire un sermon tous les samedis, habitude que tous les fils de l'Église feraient bien d'éviter, il avait fréquemment éprouvé un accablement qu'il attribuait à un excès de fatigue intellectuelle. Heureusement qu'un jeune d'œuf battu par la bonne dame chez qui il demeurait alors, avec un verre de vieux xérès, un peu de muscade et du sucre en poudre, ne manquait jamais d'agir comme un charme. Sans vouloir indiquer un remède aussi simple à un si habile professeur du grand art de guérir, il se permettait de demander à son bon ami, le docteur, si la fatigue de M. Merdle, étant causée par des calculs compliqués trop prolongés, il ne serait pas possible, humainement parlant, de rendre le ton à ses esprits abattus au moyen de quelques doux mais généreux stimulants. « Oui, dit le médecin, oui, vous avez tous les deux raison. Mais je vous dirais que je ne vois pas du tout que M. Merdle soit malade. Il est fort comme un rhinocéros, il digère comme une autruche, il absorbe comme une huître. Quant aux nerfs, M. Merdle est d'un tempérament paisible et ne s'émeut pas facilement. Aussi invulnérable, à mon avis, que le divin Achille. Vous vous étonnerez sans doute qu'un homme ainsi fait puisse se croire indisposé. Mais toujours est-il que je ne vois pas ce qu'il a. Peut-être a-t-il quelque maladie inconnue et impénétrable. Je n'en sais rien. J'affirme seulement que jusqu'à présent, je n'ai point réussi à la découvrir. » Il n'y avait pas ombre de la maladie de M. Merdle sur la poitrine qui servait en ce moment de montre d'étalage à une masse de pierres précieuses et rivalisait avec un grand nombre de bijoux non moins superbes. Il n'y avait pas ombre de la maladie de M. Merdle sur le jeune Sparkla, qui allait d'un salon à l'autre, comme une âme en peine, cherchant une jeune fille d'une réputation problématique et qui ne fit pas trop sa bégueule. Il n'y avait pas ombre de la maladie de M. Merdle sur les mollusques et les déséchasses, dont il y avait là des colonies entières, ni sur aucun des invités. Il n'y en avait même qu'une ombre très faible sur M. Merdle, qui circulait dans la foule, recevant des hommages de chacun. La maladie de M. Merdle. La société et M. Merdle étaient liés par tant d'intérêts communs qu'on avait peine à se figurer que le banquier gardât sa maladie, s'il en avait une, pour lui tout seul. Avait-il réellement cette maladie inconnue et impénétrable, et quelques médecins parvint-il enfin à la découvrir? Patience. En attendant, les murs de la maréchaussée projetaient une ombre véritable qui exerçait une sombre influence sur la famille Dorrit à toute heure de la journée.